Bienvenue sur Offcast, le off du podcast francophone par Podcast Makers, imaginé par Raphaël Grieco. Bonjour à toutes et tous, je suis Gaël Aymar, co-animateur du podcast Aventure Humaine et co-fondateur du studio de production Podcastmania. Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris? Allons dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème effervescent, voire agitateur. Dans chaque épisode, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du host, son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast et plein d'autres questions. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Guillaume Tostivin, entrepreneur et passionné d'histoire. Guillaume a donc naturellement créé une toute autre histoire pour tirer les leçons de l'histoire et de les mettre en pratique dans votre quotidien. C'est un podcast hebdomadaire qui explore plusieurs sujets, business et management, à la lumière d'anecdotes, de personnages, de monuments et d'événements historiques. De mon côté, j'ai co-créé Aventure Humaine, le podcast bienveillant à deux voix qui t'invite à prendre ta place. Aventure Humaine, c'est une rencontre, une connexion humaine entre Laura, ma conjointe, moi-même et des aventuriers de la vie alignée qui placent le sens au cœur de leur projet de vie. Tous les vendredis, écoute une nouvelle conversation pour t'inspirer et te montrer que tout est possible quand on est bien entouré et aligné. La saison 3 débarque à la rentrée avec de très très belles conversations de cœur à cœur. Pour plus d'infos, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes d'écoute favorites ou sur aventurehumaine.fr. Et si vous voulez vous lancer ou créer un podcast, je vous conseille d'aller sur podcastmania.fr. Je vous souhaite une belle immersion dans l'univers de Guillaume. Bonne écoute. Salut Guillaume, merci beaucoup d'être non pas sur Aventure Humaine, ni sur une toute autre histoire, mais bien sur Offcast.
Tout à fait.
Encore une fois.
Bah écoute, merci Gaël, je suis ravi d'être là avec toi pour justement cet nouveau épisode d'Offcast.
On enregistre du coup, on va dire l'épisode retour, le jour où on a publié l'épisode où tu m'as... tu as été chercher un petit peu ce qui se passait dans les coulisses de mon podcast avec Laura Aventure Humaine.
Exactement.
Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va aller découvrir comment tu es arrivé à créer une toute autre histoire. Tu as un parcours aussi d'entrepreneur et de passionné.
Exactement.
Première petite question, peux-tu te présenter s'il te plaît?
Oui, écoute, Guillaume Tostivin, j'ai 42 ans. Effectivement, je me définis quand même entrepreneur, véritablement touche à tout tellement je suis passionné de plein de sujets. Je suis père également de 4 enfants, donc c'est une aventure humaine incroyable. Tu vois, je l'ai placé déjà. De 2 paires de jumeaux, donc une aventure encore plus incroyable. Donc je suis aujourd'hui un homme comblé avec plein d'expériences, que ça soit du coup la paternité, le côté famille, le côté entreprise et l'accomplissement avec ma passion aussi, donc liée à l'histoire et donc créateur du podcast Une toute autre histoire. Voilà pour la présentation.
Super, merci beaucoup. Effectivement, extraordinaire d'avoir deux fois des jumeaux.
Exactement.
Avant de creuser et d'aller sur une toute autre histoire, parce que ça, c'est une aventure qui a commencé il y a eu à peu près un an. Le parcours a été riche avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tu as grandi à Paris ?
Oui, déjà, alors j'ai eu la chance, on va dire, et oui, j'assume, de grandir, alors pas à Paris même, mais c'est à Rueil-Malmaison, une ville chargée d'histoire, comme par hasard, où Napoléon et Joséphine ont installé leur QG. Mais j'ai passé toute mon enfance à Rueil, j'avoue que j'avais des parents assez porté sur le côté culture et autres. Donc, je faisais beaucoup de sorties culturelles côté historique. Je me suis rendu compte que j'avais une capacité à avoir une bonne mémoire aussi. Donc, j'ai vécu une enfance heureuse où j'ai énormément fait de sorties, découvert aussi beaucoup de passions liées à la musique, au chant. J'ai été chanteur dans le chœur d'enfant de l'Opéra de Paris aussi. Donc, tout un écosystème culturel. Très
déjà
fort.
Très riche.
Ouais, très riche. Et je me souviens d'une question aussi en sixième où un des profs me disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, j'avais dit prof d'histoire. Et mes camarades se fichaient un peu de moi en disant, mais on comprend que tu aimes bien l'histoire, mais pourquoi tu veux être prof? Parce que c'était vraiment le côté un petit peu ringard. Je comprenais, mais moi, je disais que la notion de pouvoir transmettre, bah, c'était assez viscéral et je sentais que je pouvais déjà adorer ça. Mais voilà, je dirais 18, 19 ans ou autre, on oublie un peu ses premiers rêves. Et puis j'ai eu un parcours un peu plus classique avec école prépa et puis école de commerce donc à Néoma en Champagne-Ardenne et donc dans la ville de Reims et ensuite du coup de 2001 à 2008 une voie entre guillemets traditionnel où j'ai voulu intégrer une grande entreprise, peut-être côté pression familiale ou autre, qui s'appelle IBM. IBM, une entreprise aussi historique, on va dire, mais sur lequel j'ai énormément appris. J'ai fait beaucoup de métiers différents, consultant, assistant maîtrise d'ouvrage. J'ai eu la chance, au bout de 3-4 ans, de pouvoir faire aussi donc, du business développement, être ingénieur d'affaires grand compte. J'étais à ce moment-là le plus jeune ingénieur d'affaires grand compte
IBM.
d'IBM France,
OK.
avec une formation par l'école des ventes, donc quelque chose de très expérientiel. J'ai pu monter un réseau aussi, les jeunes de moins de 30 ans au sein d'IBM France, donc voilà, ça a été une expérience superbe. Donc
Et
voilà.
pendant ce temps,
Oui.
pendant cette aventure et même pendant tes études,
Oui.
comment tu assouvis un petit peu et tu nourris quand même cette passion
Eh ben alors, c'est
de
très intéressant
culture, d'histoire?
quand on rentre dans la vie active, bah 2001, bah forcément, ça se passe bien. J'avoue qu'on ne va pas se mentir, mais au début, les premiers salaires font que bah, tu as une vie relativement agréable, tu peux plus facilement investir, tu sors. Et là, je me suis amusé à dire, tiens, avec mon épouse, on habite Paris, mais en fait, moi, j'habitais Rueil, mais je ne connais pas suffisamment Paris. Et le déclencheur, ça a été que tous les week-ends, on s'est fait des visites guidées pour découvrir Montmartre, un quartier ou autre. Ça a été véritablement le déclencheur. On tombe sur un guide, bon, assez trop académique. On tombe sur un deuxième. Et puis à un moment, on tombe sur un guide qui est maintenant très connu depuis 10-15 ans, qui s'appelle Claude Marty, qui est en même temps un acteur, qui est un comédien, qui est assez incroyable. Et on se passionne pour toutes ces visites. Il nous fait découvrir des visites aussi exceptionnelles, nous rentrer à la coupole de l'Académie française, plein d'endroits. On était à ce moment-là 15, 20, 25 par groupe. Et maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il a plus de 75-80 personnes
Ah oui.
presque par visite. Oui, il est obligé de découper tellement il est connu. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il transmet sa passion. J'apprends énormément de choses et c'est une véritable expérience qui permet d'avoir un autre regard sur cette ville qu'est Paris. Je me dis, bah, tout le monde. Enfin voilà, aujourd'hui il y a, je vais pas dire un Paris bashing, mais on dit ah ouais, je suis à Paris, je commence à Paris, voilà, bah autant
Oui, c'est vrai.
profiter de ce cadre là qui est magnifique pour le connaître le week-end. Et donc je parlais beaucoup autour de moi de ce concept de visite. Et en fait rapidement je me suis rendu compte que bah, ce concept de visite guidée, bah voilà, il avait une mauvaise image. On a une image très académique justement de prof d'histoire et que lui, ce fameux Claude Marty, il arrivait à avoir une audience, il arrivait un peu à disrupter d'une certaine manière ce produit-là. Et en fait, donc en 2008, crise de la trentaine, il y a tout qui s'enchaîne. J'apprends qu'après plusieurs années, je vais pouvoir être enfin papa, mais par contre papa de jumeaux. On se profile la crise aussi de 2008 où il y a beaucoup d'incertitudes, aussi
Oui.
bien chez IBM France et autres. Je me suis dit, tiens, bah, quelque part au fond de moi, j'avais toujours voulu vivre de mes propres passions et donc d'être part un peu entrepreneur, un peu le côté passion déjà économie. Mais bon, je ne peux pas me lancer comme ça, passer d'un extrême à l'autre. Déjà, je me
Il y
fais
a des
engueuler par mes
risques.
parents, ouais, des
Oui.
risques. Je me fais engueuler par mes parents parce que je quitte une IBM. Enfin, ben oui, je prends tellement de
Ben
risques.
oui.
Mais c'est quoi le
Tu aurais
projet?
dû continuer pendant 30 ans
C'est
chez IBM.
exactement ça, exactement, puisque l'ancienneté moyenne est de 14 ans. Les gens restent en moyenne 14 ans. Et voilà, et à l'époque, la moyenne d'âge était de 41 ans. Donc, vous imaginez. Donc oui, logiquement, je devais y passer
Mais bon,
toute ma vie. Mais
tu prends
voilà.
ton courage à deux mains et l'appel est plus fort que tout.
Exactement. Et je passe un an en fait au sein d'une startup qui s'appelle Alvarum, qui est spécialisée dans tout ce qui est collecte de fonds pour associations, pour comprendre le mode de fonctionnement d'une startup. J'essaie d'apporter mes compétences en business development. Et oui. Au bout d'un an, voilà, au baptême de mes jumeaux, je m'en souviens très bien aussi, décidément, je décide de me lancer dans le grand bain, pour la parabole, entre guillemets. Et là, j'évoque à mes amis, voilà, j'ai identifié ce produit-là, qui est la visite guidée, qui est complètement poussiéreuse, mais il y a bien l'atelier des chefs qui disrupte le cours de cuisine, il y a bien jeveuxêtrephotographe.com qui disrupte le cours de photo. Voilà, je peux inventer un nouveau concept, surtout qu'il n'y a pas de site internet de réservation en ligne de visite guidée. Donc, je lance curiosité.com avec un format d'une visite guidée innovante de 2 heures pour découvrir Montmartre, pour découvrir les passages couverts, puis des visites thématiques. Pendant 2 heures, je fume la promesse de faire découvrir un quartier, une expérience, avec un petit mémento à la fin pour refaire la balade, avec un petit quiz déjà, avec un vidéoprojecteur où je diffuse des extraits de films où sont tournés des films à tel ou tel endroit où je passe.
Donc là, c'est toi, explique-nous un tout petit peu, c'est toi qui fais le guide ?
C'est ça, c'est-à-dire
ou c'est
que
c'est déjà, on va dire, dématérialisé et automatisé. Non.
Ouais, en fait non, en fait je fais déjà pas mal de visites guidées avec certains confrères, mais je décide de construire moi-même les visites guidées à partir de voilà mes livres, tout ça, tout ce que je peux avoir. Je construis le fond et la forme, le format. Je définis un peu un cahier des charges, voilà comme pourrait être le format. Donc les premières visites, c'est moi qui les fais. Mais après, qu'est-ce que je fais ? Il fallait savoir que la réglementation fait qu'aujourd'hui, tu peux faire ta propre visite. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir le diplôme. Tu peux faire la visite de ta ville et être rémunéré, sauf si tu dois aller dans les monuments historiques où là, il faut ta carte de guide conférencier. Donc je me rends compte de ce, je ne vais pas dire vide juridique, mais
Il y a une petite brèche.
Voilà, mais encore une fois, c'est à tout de l'honneur de vraiment disrupter ce marché et de le porter et de valoriser le métier de guide conférencier. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je contacte plusieurs guides conférenciers en disant je suis une nouvelle agence et je veux disrupter, je vais avoir un système de réservation en ligne. Et donc, j'ai une équipe de 4-5 guides qui acceptent d'être dans l'aventure et à qui je délègue en fait au bout de 2-3 mois.
En gros, c'est une franchise.
Non, parce que c'est des prestataires pour moi, c'est des freelances. Voilà, et donc c'est plutôt une agence. J'imagine effectivement à un moment le concept de franchise, mais c'est pas assez véritablement abouti. Mais surtout, je décide de lancer ça vis-à-vis du grand public en espérant. Je fais la principale grande erreur, parce qu'il en faut bien une quand on se lance, quand on est entrepreneur, de me dire je suis suffisamment passionné, je sais comment
tout
le business
comme
fonctionne,
moi.
Tout le monde est comme moi. J'ai vendu des millions via. IBM, c'était en autour de millions d'euros et des milliers d'euros. Donc le bouche à oreille suffira. Je gagne un ou deux concours de création d'entreprise pour curiosité. Je n'ai pas besoin de lever des fonds. Allez, c'est parti. C'est bien gentil, mais quand on monte un business B2C, il faut énormément en fait, de moyens en termes de communication. Énormément. Et donc, je sous-estime complètement cette partie-là. Bien sûr que j'arrive à peu près à remplir, mais pas suffisamment pour potentiellement même me verser un salaire en termes de gestion. En plus, les premières balades, c'est moi qui les fais, donc le week-end. Mon épouse, très consignante, à qui, encore une fois, je rends hommage, pendant qu'elle sortait quand même les enfants qui avaient à peine 6-8 mois dans le parc, je sortais des Parisiens, je revenais à 17h30. Donc c'était vraiment intense la semaine et le week-end.
Et du coup, qu'est-ce que tu apprends et quelles sont un petit peu les leçons quand tu as pris quand tu prends le recul ?
Les lessons learned, c'est clair. C'est-à-dire que la lessons learned principale, c'est vraiment cette notion de minimiser le B2C. Et aujourd'hui, on va y venir, mais aujourd'hui, je donne des cours d'entrepreneuriat, je suis coach entrepreneuriat et autres. Beaucoup de passionnés de la passion économie ou même d'étudiants se disent, j'ai imaginé tel service en prenant la posture de moi, j'ai besoin de ça. Donc, ça va plaire, entre guillemets, au B2C, au grand public. Sauf que, encore une fois, convaincre Madame Michu de sortir 15 euros de son portefeuille pour une visite, c'est parfois beaucoup plus exigeant que de convaincre une entreprise pour
de
une prestation beaucoup plus globale. De sortir 10 000, exactement.
Exactement,
c'est ça. Et c'est là où, en fait, ce qui se passe, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Bah, mon expérience IBM, j'étais bon sur le côté B2B. Mmh. Eh bien, très rapidement, mon réseau, qui étaient dans différentes entreprises, me disent, bah écoute, moi j'organise une sortie d'entreprise, où j'ai le comité d'entreprise, où j'ai mon propre team building, séminaire. Bah, je peux proposer une visite guidée complètement sur mesure. Et là, je me rends compte qu'évidemment, le chiffre d'affaires est 4 à 5 fois supérieur, et la marge exponentielle aussi. Donc en fait, je m'étais fixé un objectif de 80% de chiffre d'affaires en B2C et 20% en B2B. C'est l'inverse, exactement, tu as tout compris. Au bout de 6-8 mois, c'est complètement
l'inverse. Petit pivot
l'inverse.
Donc, tout à fait naturel avec justement tout ton background et le positionnement naturel de l'écosystème à Paris, quoi.
Exactement. Donc ça, c'est la première lessons learned. C'est un problème de positionnement vis-à-vis de ma clientèle, mais que j'arrive à naturellement pivoter avec donc mon MVP. Clairement, c'est particulièrement important et de se rendre compte que de dire que en B2B, parfois c'est beaucoup plus simple. Vous aurez tout le temps d'aller sur le B2C quand je vois des entrepreneurs. Il faut véritablement être armé et il faut vraiment avoir beaucoup de moyens en termes de communication pour adresser cette cible.
La deuxième juste une petite pause. B2C, pour que tout le monde comprenne, c'est adressé auprès des particuliers, des familles, des individus citoyens
Complètement.
B2B, c'est les professionnels, les entreprises. Et un autre petite notion, MVP, c'est le Minimum Value Product. C'est la plus petite offre pour tester, le plus petit produit pour tester un marché, une idée que vous avez en tête. Ça s'appelle comme ça et c'est vraiment un langage très start-up qui est en train de s'étendre. Mais voilà, petite précision pour que tout le monde comprenne.
Tu as complètement raison, complètement. Et si je reprends d'autres termes, je ferai aussi cette partie traitement de définition parce que c'est effectivement des termes importants mais qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés et explicites et sur lesquels parfois on peut faire des analogies, mais je vais y revenir juste après.
Deuxième
lessons learned. Et là, ça va vraiment surprendre aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu le vois, content is king, le contenu est clé. Ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai voulu commercialiser, faire une prestation, entre guillemets, de service à partir du contenu. Et j'ai monté un blog très très tard, en fait, sur le côté référencement et tout ça. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai un confrère, et sur lequel tout le mérite en revient, auquel je veux rendre hommage, qui s'appelle Paris Zigzag, qui eux ont lancé un blog sur tout ce qui est les curiosités de Paris dès 2010, dès 2011 et autres, a connu vraiment une croissance de plus en plus forte. Ils sont partis du contenu et au moment où ça leur restait opportun, au moment où ils avaient une audience, au moment où ils avaient une communauté, ils ont lancé le produit de la visite. Et c'est là où, c'est une bonne manière de craquer, je pense, le fameux B2C, c'est cette fameuse audience que je n'avais pas. Je me suis lancé, excuse-moi l'expression, avec ma bite et mon couteau, pour sans véritable audience ou communauté. Et si
non,
j'étais
parti... On a tous fait cette erreur. Au tout début, moi, j'ai fait pareil. Et on est très content d'avoir lancé Aventure Humaine en premier et Podcast Mania après. C'est beaucoup plus naturel.
Mais bien sûr. Et donc, si j'avais créé d'abord du contenu pour tester et après dire, tiens, est-ce que vous êtes intéressé par des visites
et pour attirer.
Ou comment pour attirer, ça aurait été beaucoup plus simple. J'aurais eu déjà un socle beaucoup plus important. Et après, Paris Zigzag a fait plusieurs partenariats avec la mairie de Paris et autres.
Ça a pris de l'ampleur. Okay.
Ça a pris de l'ampleur. Donc maintenant, curiosité, j'ai essayé de faire en sorte que des guides puissent prendre le relais, mais ça a été très compliqué. Et donc, du coup, ça s'est arrêté. Mais ça a été particulièrement structurant en termes de lessons learned et pour la suite, pour mon deuxième business, donc Urban Gaming. Donc voilà, ces deux lessons learned sont particulièrement structurantes. C'est la chance d'avoir pu vivre en un échec pour pouvoir créer ensuite un succès. Et encore, échec relatif, c'est parce qu'en fait, j'ai été pris par le succès de ma deuxième entreprise. C'est pour ça que j'ai dû arrêter Curiosité. Mais d'accord, voilà, donc c'est vous comprenez, je pense, cher auditeur, que l'ADN d'où ça vient en termes de parcours.
Là, on comprend, y a un vrai alignement, c'est très très clair, et il n'y a eu aucun, même si tu avais voulu, pardon, je sais pas, désaligner, tu ne pouvais pas.
C'est ça.
Et donc, comment la période charnière se met en place entre, du coup, cette première expérience solo,
ouais,
et Urban Gaming?
Alors, c'est simple, c'est que justement, le fait de faire connaître le côté curiosité, le fait que je fasse des interventions en entreprise pour des visites d'idées, là, je rencontre des personnes de l'écosystème plutôt côté touristique qui partagent le même ADN que moi de faire découvrir Paris autrement. Et je rencontre Martin Tissier, qui est donc le cofondateur d'Urban Gaming, et qui lui a un blog. Lui, justement, il a cette stratégie inverse. Il a créé un groupe Facebook, Découvrir Paris, sur lequel il fait des petits quiz et il a plus de 1000-1500 personnes. Lui, justement, il a eu cette approche complètement contenue. Mais il me présente un projet sur lequel il veut faire une appli de découverte en mode B2C pour lors des journées du patrimoine. Je lui dis, on peut tester, mais franchement, là, je pense qu'il y a le B2B. Regarde ce que j'essaye d'avoir sur le côté sortie, le côté séminaire. Il y a une demande côté entreprise. Ouais, mais le but, ce serait bien quand même voilà, un but neutre de faire partager notre passion de découverte de Paris après la plus grande communauté. Il dit oui, mais on verra peut-être dans un deuxième temps. Et surtout, on n'a pas trouvé à ce moment-là un business model d'une application B2C qui était rentable de découverte au plus grand nombre. Et franchement, aujourd'hui, on est en 2020, je défie de trouver une application sur laquelle qui produit du contenu de découverte urbaine, terme de curiosité, et qui soit rentable. Il n'y en a pas. C'est un gros problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est partager des curiosités, des informations et autres. Beaucoup de personnes sont pas forcément, veulent avoir ces informations, ne sont pas forcément prêts à payer, que ce soit un système d'abonnement ou autre. Personne n'a réussi à craquer. Le seul, entre guillemets, un peu géocaching, voilà, ce côté ludique, ce côté exploration, et encore. Et encore. Et donc, je lui expose mes opportunités,
vision,
que j'ai,
ouais.
Mes opportunités que j'ai de découverte et de potentiellement de même faire des séminaires d'exploration ludique. Et là, là, il me dit, ça tombe bien, je connais deux développeurs. Donc, si on a une opportunité IT, ce serait super. Ok. En janvier 2011, un grand acteur des télécoms souhaite, pour ses 200 commerciaux des télécoms, avoir un séminaire complètement disruptif de découverte dans Paris. Donc, cahier des charges parfait. À ce moment-là, du coup, il trouve notre idée assez intéressante. On a l'idée d'imaginer une appli de découverte sur le portable des participants, mais encore une fois en mode B2B. Le problème, c'est que voilà, on est déjà à l'aube de la RGPD. Non, on ne peut pas faire installer les applications, cette application sur le portable des utilisateurs. Et du coup, la seule manière, c'est de trouver un autre device, un autre matériel, pardon, un autre support. Et là, merci Tim Cook, merci les iPads et autres. C'est depuis 6 mois est arrivé les iPads. On est janvier 2011. Les tablettes tactiles. Et là, Samsung, qui a un train de retard, eh bien, on fait un partenariat assez incroyable. On leur dit, voilà, vos tablettes, la nouvelle Galaxy, pour ne pas la nommer, eh bien, on a la possibilité de la mettre dans les mains de 200 commerciaux qui pourraient les revendre par la suite, voilà, puisque c'est un opérateur téléphonique. Est-ce que vous ne pourriez pas nous aider? Et là, tiens-toi bien, coup de chance du créateur. C'est presque ça. Il nous prête 30 tablettes neuves issues d'un budget marketing pour nous aider à faire cette opération et moyennant de l'échange marchandises et échange visibilité.
Donc 30 tablettes pour 200 commerciaux, j'imagine tout de suite des petites équipes.
C'est ça, des équipes de 5-6 personnes. On arrive à faire comme on peut sur cette première expérience, mais on invente l'Urban Gaming, le premier jeu donc, sur tablette collectif donc, qui a été fait en janvier 2011. Et à ce moment-là, dans plusieurs pays dans le monde, pareil, il y en a qui commencent à se rendre compte du potentiel de la tablette, du potentiel où tu peux donc, créer un jeu où tu es géolocalisé et tu peux faire des découvertes, un jeu où tu peux utiliser la photo, la vidéo, donc imaginer de l'incarnation, voilà, réimaginer un discours de Napoléon à tel ou tel endroit, réimaginer un extrait de film. Enfin bref, donc le potentiel créatif qui est juste énorme.
L'expérience et donc, est très très enrichie. Et par contre, ça demande quand même un petit peu de développement pour que dans la tablette tout ça soit organisé.
Exactement, et donc c'est pour ça que nos deux développeurs, un qui est en front office et un en back office, nous inventent aussi bien le CMS, le Content Management System, pour que moi je puisse créer les parcours qui sont issus de l'ADN de Curiosité, vous vous doutez bien. Je réinvente pas tous les points que j'ai, je les ai dans la tête, et l'expérience utilisateur avec justement le développement pour la partie véritablement jeu. Donc on arrive à un MVP, voilà, donc pour le côté Urban Gaming, dès janvier-février 2011 qu'on peut commercialiser.
Et donc ça, dès en combien de temps
on l'a fait en 3-4 semaines. Donc après, c'était pas complètement... Après, ça a mis quelques mois à s'industrialiser. Mais on crée ensuite une application. Et de là, de 2011 à 2020, c'est le début de cette aventure Urban Gaming, où on arrive à convaincre les directions de communication d'imaginer des séminaires un peu disruptifs.
Différents. Et qui font vraiment vivre une expérience plutôt que...
C'est ça.
Emmener tout le monde dans un hôtel, les faire descendre tous les matins dans
c'est
la salle de conférence,
de
c'est
séminaire.
Pas top, quoi.
Et là où c'est génial, là où je m'éclate, c'est qu'aujourd'hui, au début, il n'y avait qu'un terrain de jeu qui était Paris. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On nous demande d'autres villes, Lyon, Lille, Avignon, ainsi de suite. Donc, je commence à aller sur le terrain et imaginer des jeux de découverte dans toutes ces grandes villes. Donc, j'imagine les cartes comme un explorateur. Enfin, c'est
là,
juste
tu assouvis, tu es entièrement nourri. Pour cette passion, cette découverte des monuments, des histoires, des parcours, des personnages historiques, c'est...
Exactement. Et comme j'étais fan d'un explorateur urbain, j'avais déjà tous les guides Michelin de toutes les régions. J'adore le système avec les cartes, les autres. Donc, je t'avoue que même quand tu me parles d'une ville, j'ai presque la carte en tête des différents points d'intérêt et autres. Donc voilà, un véritable vraiment game designer par rapport à ça. Et ce qui est génial avec cette entreprise, c'est que dès le début, on est rentable et donc on n'a pas besoin de lever des fonds. Donc on est en mode bootstrapping. C'est donc un terme qui signifie l'autofinancement versus le côté
levée de fonds obligatoirement pour chercher une échelle qui permet la rentabilité. Et du coup, de 2011 à 2020, un petit peu les grandes dates ou les grands moments.
Les grands moments, bah déjà, on fait une croissance organique à chaque fois de 20-30%. Donc, c'est beau.
Super.
On arrive à... Nos premiers locaux sont dans le passage Choiseul, donc dans un lieu aussi assez improbable et assez incroyable où on a accès au toit. Donc, voilà, complètement dans notre ADN. Donc, mais vraiment petit, assez exigu. On passe ensuite, on change de locaux au fur et à mesure qu'on grandit. On s'entoure de commerciaux, de guides un peu conférenciers que je réemploie du coup à travers cette expérience, parce que parfois on nous demande des terrains de jeu comme le musée du Louvre, Orsay ou autre. Donc on est capable de faire des jeux dans ces terrains de jeu, donc culturels. Donc c'est culturellement incroyable pour assouvir sa passion. Des animateurs, des intermittents du spectacle qui vont faire le côté animation, briefing, débriefing. Et donc on passe rapidement de 50 événements par an à 100 événements par an. Et aujourd'hui, donc, on en fait 400. Mais il y a une date qui est importante en termes de philosophie, en termes de côté jeu, parce que de 2011 à 2016, on fait énormément de rallyes, de jeux de piste, de chasse au trésor. 2016 arrivent les escape rooms. Les escape rooms qui révolutionnent un peu, je dirais, le côté jeu. Même si c'est quelque part une quête, une aventure dans un endroit clos. Et donc là, on imagine différents produits un mode escape game pour 100, 200 et voire même 700. Notre record, ça a été 700 personnes en simultané, avec pas que des tablettes, mais avec la tablette en support digital, mais aussi avec une valise mystérieuse, avec des petites boîtes, des cadenas et autres. Donc, on monte fortement en compétences en gamification. Oui. Je m'éloigne un peu plus de mes passions, de l'histoire, l'exploration. Et les directions de RH et
de vos clients,
et de nos clients, les universités d'entreprise nous sollicitent sur des problématiques, intégration de nouveaux embauchés, ou découverte des nouveaux locaux, ou projets liés à la conduite du changement. Est-ce que vous pouvez faire un jeu autour de ça? Vous avez la tablette, et vous avez l'expérience, la gamification, est-ce qu'on peut faire un escape game autour de ça? Donc dès 2016, eh bien, on part du team building pour faire de plus en plus de jeux sérieux. C'est une suite naturelle par rapport aux besoins métiers. Et là, c'est mon passé de consultant, toutes les problématiques que j'ai vues du temps d'IBM qui m'aident à un peu plus affiner, à cadrer les différents besoins, à faire monter en compétences des commerciaux. Et voilà, donc là, c'est juste incroyable parce que mon expérience d'IBM aide à tout structurer la logique de pénétration des grands comptes, de faire des véritables plans de comptes dans les différentes sociétés. Un compte comme L'Oréal, en 3-4 ans, on fait 180 opérations pour eux. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, il y a un système de recommandation qui est mise en place. Donc, toute mon expertise d'IBM
comment ça marche à l'intérieur de tes clients. Et du coup, c'est naturel. Tu sais comment communiquer, tu sais comment amener une offre, une autre, et puis choper tous les budgets. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel pour, on va dire, n'importe qui. Ouais. Et c'est là où ta première expérience sert et a beaucoup d'impact.
Ah mais complètement, notamment parce que en plus je me permets sur l'équipe, je suis le seul à avoir connu une expérience d'un grand groupe, et donc du coup on se complète incroyablement. Donc Martin que j'ai évoqué au début, lui il est hyper spécialisé en référencement naturel sur lequel je connais pas trop et j'y croyais pas trop. Eh bien on crée 450 pages sur notre site internet de référencement, on met quelques anecdotes et autres sur telle ou telle ville. Aujourd'hui Urban Gaming c'est 450 terrains de jeu à Paris, en France, à l'étranger, et si tu tapes team building Saint-Malo, team building Avignon ou team building Agadir, il y a de fortes chances pour que grâce au référencement naturel, eh bien on apparaisse en premier. Donc une véritable machine de guerre où tout s'aligne. On a donc nos opérations de team building qui sont des véritables chevaux de Troie pour proposer nos offres sur le côté RH communication, et on continue cette croissance organique sans avoir besoin de financement extérieur.
Bravo. Et aujourd'hui vous êtes combien?
Alors au plus fort, parce que c'est vrai qu'avant Covid on était une quinzaine de salariés, mais j'avoue que comme on a monté aussi des partenariats avec des agences au niveau européenne et un peu partout dans le monde, et d'accord, sans compter les freelances qu'on fait travailler sur des parcours, sur des animations et autres, au plus fort, le concept a pu faire travailler quand même 50 personnes presque à temps plein.
Okay. Pardon, je t'ai coupé sur 2016, tu voulais...
Non. Ah non, je dis, on est 16 salariés, je voulais dire. D'accord. Je voulais dire qu'on était 16 salariés au plus fort avant le Covid. D'accord. Et que le concept a pu faire aux alentours d'une cinquantaine de personnes. Maintenant, on est en pleine réinvention avec le Covid. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que le fait que nos deux développeurs aussi, le facteur clé de succès, et là, c'est une lessons learned, encore une fois, un retour d'expérience qu'il faut faire, c'est qu'ils ont depuis le début au capital de la société. Ils sont capital de la société, donc c'est-à-dire que les outils, eh bien, ils les développent et du coup, on n'a pas besoin de passer par un prestataire externe. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que dès janvier, on a senti le fort besoin en distanciel, et donc maintenant, on est en mesure de faire des jeux, des escape games, aussi bien en présentiel ou en distanciel, ou voire les deux, ce qui va nous permettre, on espère, hein, encore une fois, personne ne peut parier sur ce qui va se passer dans les prochains mois, mais de passer un cap et de miser sur l'adaptation pour être encore plus résilient dans les prochains mois. Donc voilà, c'est une période sur les 6 derniers mois, on a énormément appris, parce qu'encore une fois, vous imaginez bien 400 événements au plus fort et on n'a presque plus rien, on est physique. Un séminaire de 1000 personnes qui est validé début mars pour en Italie du Sud, voilà, qui est forcément annulé. Enfin, plein de choses, plein de coups durs, même au sein d'une équipe qui n'est pas forcément évidente, c'est pas forcément évident à gérer. Voilà, on a des challenges côté Urban Gaming, mais on est en bonne passe, on se met dans le mindset pour les affronter, faire des partenaires stratégiques et comme disait Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est aujourd'hui la maxime qu'on développe.
Bravo pour tout ça. Et du coup, en parallèle, sur la dernière année qui est compliquée à gérer du coup, chez Urban Gaming, ouais. Tu te lances en plus sur les ondes au micro et tu crées une toute autre histoire. C'est quoi le déclic? Effectivement, tu l'as créé quand même quelques mois avant cette incroyable période que l'on vit actuellement. Mais quel est le déclic? Partage-nous un petit peu.
Bah, le déclic, c'est là cette fois, c'est la crise de quarantaine, crise de la trentaine. Crise de la trentaine, je pars d'IBM, je deviens papa et je crée ma boîte. Oui, logique. Crise de la quarantaine, il me faut des nouveaux projets.
Attention voilà. À la crise de la cinquantaine.
Je ne sais pas. Je me rends compte que je suis un homme de projet aussi. J'aime beaucoup ça.
Oui.
Je me fixe un objectif tout bête, qui est, enfin pas tout bête, mais l'année dernière aussi, avant l'expérience, une toute autre histoire, de faire le marathon. Voilà, donc je prends un coach. Je me rends compte à quel point bah, c'est très intéressant d'avoir un coach qui me permet d'apprendre, de comprendre, enfin voilà, de réaliser un objectif. Et dans ma petite tête, depuis longtemps, bah voilà, je me dis quand même, avec cette décennie qui vient de s'écouler, j'ai envie de la partager, j'ai envie de la partager différemment, de créer, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais de me projeter pas à 40, mais à 50, à 60, 80. Je sais que je vais être quelqu'un, un homme d'action, un homme de projet sur le long terme. Et j'entends parler le concept de personal branding, j'entends le concept aussi d'ikigai, je ne sais pas si tu connais aussi, avec oui. La notion de mission ou autre. Donc c'est particulièrement inspirant. Je me dis que le Guillaume Tostivin, il a certains métiers, peut-être une profession, mais il a une mission, une vocation. Donc tout s'imbrique et je me dis, il faut que je prenne du temps pour un peu mon propre, on va dire, personal branding, pour voir ce qu'il en reste. C'est peut-être aussi le fait d'avoir, qu'est-ce qui va rester, quelle trace je veux laisser, quelle construction. Et là, il y a un an, c'est un peu plus d'un an en termes de rencontre, je fais la rencontre de Romain Limois, qui effectivement partage un peu le même avis sur le côté personal branding et qui décide de se lancer en mode coaching. Et là, d'un commun accord, on se dit, je veux bien être ton premier client sur le personal branding. Comme ça, tu pourras mon retour, construire des workshops. Donc, il me forme, il me coach, je dirais, sur le côté personal branding. On fait plusieurs ateliers de brainstorming. J'en apprends beaucoup sur moi. Et au fur et à mesure, lui, il avait créé déjà un podcast sur qui s'appelle Inspire, qui interview des personnes assez importantes dans le côté développement durable ou qui font changer un petit peu les choses, une source d'inspiration. Donc, il connaissait déjà le produit podcast. Quand je fais mon travail d'introspection, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Bien sûr, il y a la gamification, les derniers sujets compétences, mais au fond de moi, je me rends compte qu'il y a des valeurs telles que la transmission, l'envie d'apprendre, l'envie de toujours apprendre et d'être passionné. Il y a ces dénominateurs communs autour de la culture, l'exploration et de l'histoire. L'histoire. Il y a le management aussi, parce que j'apprends en étant entrepreneur. Et tout ça, tout combiné en mode post-it, tu vois ce que ça peut donner, en mode design thinking, on se rend compte que ces thèmes forts que sont la transmission, l'histoire et le management, ça peut fortement résumer Guillaume Tostivin en termes d'ADN. Et j'évoque le fait que intrinsèquement, parfois, je fais des analogies. Que ce soit dans mes visites guidées, je faisais des analogies. Dans mes jeux, je faisais des analogies aussi. Je me dis, le concept d'analogie peut être un concept fort. Sur le thème de l'histoire, il y a déjà des chaînes YouTube, il y a Nota Bene qui est juste incroyable et autres. Moi, je ne suis pas historien, je suis juste passionné comme beaucoup d'autres, mais je ne me sens pas suffisamment à l'aise pour faire une chaîne YouTube. Et le format podcast me permet d'avoir une plus facile liberté.
Il est équilibré pour toi.
Exactement, de tester de voir si ça peut fonctionner. Et avec un format justement court, pas une heure et demie. Donc on rapidement on définit un peu ce format de d'analogie business management à destination des cadres, à destination des voilà du des managers ou autres qui veulent justement avoir une vision différente. Donc si je peux me permettre de faire la transition avec une toute autre histoire, quelle est la ligne éditoriale, quelle est la promesse d'une toute autre histoire? Comme son nom l'indique, c'est voilà, c'est chers auditeurs, c'est pas donné, c'est pas une histoire académique telle que vous avez pu l'avoir sur tel ou tel personnage ou tel événement, que ça soit dans un cours ou autre. C'est voilà d'avoir un tout autre angle, une toute autre perception, d'avoir un autre logiciel sur ces personnes-là et de faire des analogies sur par rapport aux actions qu'ils ont faites, par rapport aux difficultés, aux challenges qu'ils ont rencontrés, et bien de faire des analogies par rapport à vous, vos propres challenges du quotidien, ce que vous pouvez rencontrer en termes de développement personnel ou même vis-à-vis en tant que manager dans votre quotidien, dans votre travail, voilà. Une toute autre histoire, c'est vraiment la manière d'appréhender ces différents challenges d'une façon différente à la lumière d'un événement ou d'un personnage historique.
Je suis entièrement fan de ce concept que j'ai découvert justement en plein confinement. Et du coup, j'ai rattrapé mon petit retard. Et du coup, depuis tous les dimanches soirs, j'attends la publication. Avant de poursuivre, une toute autre histoire, comment tu as trouvé le nom?
Et bah pareil, c'est à la suite de ce fameux workshop de brainstorming avec Romain, où on a tout défini en mode post-it et on a essayé d'avoir quelques noms de titres. Et celui-ci est sorti avec voilà, et je trouvais qu'il résumait bien le concept qu'on voulait faire passer. Ça peut devenir aussi donc une marque, même si derrière c'est du personal branding côté Guillaume Tostivin, mais voilà, je trouve que le concept est assez fort. Donc c'est issu d'un brainstorming, mais le message que je veux faire passer, la lessons learned, c'est que voilà, chers amis, si vous voulez vous lancer dans un podcast ou autre, voilà, j'ai pris moi l'approche de me dire je peux pas tout connaître. Déjà, c'est travailler la vision, les objectifs. Donc, c'est pour ça que Romain, en tant que coach, m'a permis de le faire. Et après, il a été coach sur la partie outils en m'expliquant tous les sujets, les aboutissements au niveau du podcast. Donc, la première chose, c'était d'avoir une ligne éditoriale, un titre. Et après, toute la suite, je dirais, logiciel, outillage et autres pour pouvoir se lancer. Mais je trouve que la notion de coach, et là, je fais l'analogie pour toi aussi par rapport au côté incubation avec Podcast Mania, est particulièrement importante et structurante est un facteur clé de succès évident. C'est pas parce que pendant 10 ans, j'ai pu être entrepreneur et j'ai pu me sentir efficace que sur un tel ou tel produit, sur tel ou tel projet, je me sens suffisamment à l'aise. La preuve, ça a été quand je me suis lancé pour le marathon. Il a fallu que j'apprenne à courir différemment comme je le faisais. Voilà, c'est pas les mêmes automatismes. Donc, je crois beaucoup à cette notion de relation coach-coaché.
Merci beaucoup pour la mention. C'est sûr qu'on a tout le temps besoin d'être coaché, d'être accompagné.
C'est ça.
Quand on se lance dans des domaines où on ne s'est pas pris et où on n'a pas le temps de se prendre ces obstacles, ces échecs, ces leçons et de les découvrir par soi-même. Il faut un minimum être écouté pour que ça soit plaisant. Et donc, en très peu de temps, tu achètes le matériel, tu passes à l'action.
Voilà, Romain me forme justement à Ocha, à tous les logiciels Audacity, au Phonique et autres. Je fais quelques maquettes dès le début. On ne sait pas ce que ça va donner, mais j'ai l'idée tout de suite. Je définis le fait de faire un format court d'une quinzaine, vingtaine de minutes, de toujours faire effectivement une analogie qui soit encore une fois, j'insiste, un personnage connu ou méconnu ou un entrepreneur, mais qui est inspirant sur un thème. Management ou un événement, parce que beaucoup d'événements sont particulièrement inspirants. Et l'idée aussi derrière, j'ai oublié de le redire, l'objectif c'est quoi? C'est pas juste d'écouter, c'est de tirer les leçons de l'histoire. En fait, je me rends compte aussi, il y avait cette frustration, c'est de se dire, si on ne maîtrise pas, on sait, hein, l'histoire tend toujours à se répéter et on ne tire jamais assez bien les leçons de l'histoire. Oui. Et là, j'ai envie de dire, ça y est, enfin, pas ça y est, mais voilà, je veux au moins dire, hey, on a déjà vécu cette situation, essayons d'en tirer les véritables leçons. Et de tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, je suis encore plus convaincu, parce qu'à chaque fois, j'arrive à faire des analogies par rapport à telle situation de l'actualité, par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Et si tous les dirigeants, les managers, y avait une véritable encyclopédie de toutes les leçons de l'histoire, on en ferait beaucoup, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Donc l'idée, voilà, c'est la promesse, c'est tirer enfin les leçons de l'histoire avec une toute autre histoire. Et donc, les premiers épisodes sont vraiment orientés dessus.
Je te coupe juste, pour rebondir vraiment là-dessus. Effectivement, on apprend l'histoire, on est jeune, on n'est pas très structuré pour comprendre vraiment les tenants et aboutissants de cette histoire que l'on apprend, on nous fait découvrir.
Exactement.
Et si on n'est pas, comme toi tu l'as été, peut-être dans un environnement et accompagné, encore une fois, on en revient toujours à ça, dans cette découverte différente, la répétition de ce format découverte et d'apprentissage de la culture, on passe à côté de tout ça. Et on va dire que depuis que j'écoute toute autre histoire, je me remémore, mais surtout j'ancre vraiment ce passé, cette histoire de la France.
D'une manière différente. Histoire
vraiment différente. Et c'est là où je le garde en mémoire et où j'arrive à comprendre les analogies que tu nous amènes.
Et c'est là où je passe un message, c'est-à-dire que, encore une fois, ce référentiel-là, c'est connu, on l'a de l'éducation nationale définit un programme, beaucoup d'éléments historiques aussi ont été écrits lors de la Troisième République, on a mis en place toute l'école gratuite entre 1880 et 1905, et donc il y a une certaine, entre guillemets, vision épurée de l'histoire, et politiquement, je ne vais pas dire un peu correcte. D'où, c'est là où c'est intéressant, je ne vais pas dire qu'il y a c'est pas des lanceurs d'alerte, mais c'est des contrepoids. Il y a des historiens type Dimitri Casali qui fait des petits livres en disant voilà tout ce que vous n'apprendrez plus, tout ce que nos enfants n'apprennent plus aujourd'hui de nos jours, et voilà les contre-vérités. Donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous pouvez regarder Un secret d'histoire de Stéphane Bern, c'est très bien, ça va donner aussi un autre angle. Et je critique absolument
très
pas, ça va donner un autre angle,
c'est
complémentaire. Franck Ferrand aussi, c'est un autre complément. Et moi, c'est aussi un autre éclairage. Et en fait, c'est là où on se rend compte que, en plus, avec la culture, l'histoire est présente, que ce soit dans les bandes dessinées, dans les films, dans les séries, on peut avoir une vision bien précise. Encore une fois, tout le monde, je prends un personnage emblématique qu'il va falloir que je craque, entre guillemets, pour changer sa vision, c'est le cardinal de Richelieu. Tout le monde a l'image du cardinal de Richelieu, dépeint par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires, de quelqu'un qui est certes intelligent, mais potentiellement, je ne vais pas dire vicieux, rusé, et avec des fins entre guillemets personnelles, alors que c'est pas complètement ça. Chaque personne n'est pas blanc, n'est pas noir, et tout le monde n'est pas forcément aussi héroïque, tout le monde a ses parts d'ombre. Pareil pour Catherine de Médicis, j'ai voulu aussi la présenter d'une manière différente. Catherine de Médicis, encore une fois, ce cher Alexandre Dumas qui a romancé dans La Reine Margot, la manière dont il la dépeint donne vraiment l'impression que c'est une manipulatrice née. Il faut le remettre dans le contexte aussi, quand on se rend compte, c'est complètement différent. Et il y a beaucoup de vulgarisateurs, justement, c'est la force de ces vulgarisateurs, à défaut des historiens, qui apportent des éclairages complètement différent. Vous avez aussi des chaînes YouTube qui peuvent démonter aussi le film Braveheart, qui montre que William Wallace, dépeint par Mel Gibson, n'est pas du tout celui qui était en vrai, et que c'est Robert Le Bruce, par exemple, qui mérite une véritable histoire. Mais pas de bol, c'était pas le même acteur. Enfin voilà, il y a tellement de déformations. Voilà, c'est de donner des autres angles, encore des autres filtres sur la vision au niveau de l'histoire. Donc, et c'est ça qui est passionnant.
Et ça s'entend. Est-ce que tu peux nous partager aussi
quelques exemples,
quelques anecdotes de pourquoi le dimanche soir.
Oui.
Et pourquoi tu pars sur un format solo assez court parce que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas général et n'est pas donné à tout le monde.
Bien sûr. Alors déjà, le dimanche soir, parce que, encore une fois, j'avoue que je prends du retard par rapport au niveau de la semaine et je me fixe l'objectif exactement comme en mode projet ou même marathon où il y en a qui font des sorties toutes les semaines. J'essaie d'avoir ce rituel, cette habitude de faire donc un épisode toutes les semaines. Et donc, le dimanche soir, c'est la fin de la semaine, donc ça me permet d'avoir un petit peu cette deadline. Là, au moment où on se parle, on est un vendredi matin, je t'avoue, en toute honnêteté, que l'épisode prochain de dimanche soir, il n'est pas du tout finalisé, scripté ou quoi que ce soit, mais je sais que ce week-end, je pourrais avoir la bande passante pour pouvoir le réaliser et le sortir dimanche soir pour mes auditeurs. Donc voilà, j'empiète sur le week-end, j'empiète un peu sur la vie de famille, mais c'est aussi ma bulle d'air. Et ça, les enfants et ma femme, j'ai beaucoup de chance.
Et comment tu enregistres justement ?
Eh ben, j'enregistre parfois, souvent, je m'isole dans une de leurs chambres, notamment avec mon petit matériel. Voilà, je dis papa va enregistrer. Merci de ne pas faire trop de bruit. Le point qui est important, effectivement, j'ai décidé de faire à une voix, donc d'incarner par moi-même. Et c'est ce que je me suis dit. Tu me demandes pourquoi un format court ? Je me dis, bah, les personnes vont. C'est bien gentil d'entendre Guillaume, mais 40, 45 minutes, 60 minutes, ça va être super long. Autant avoir un format un petit peu synthétique qui donne le contexte, le déroulé, les réalisations de la personne, les impacts et les leçons que je peux en tirer. Et ça, c'est tout à fait possible de résumer ça en 15-20 minutes. Alors, j'avoue que l'épisode de rentrée avec Churchill, j'avais tellement à dire que j'ai fait 25 minutes. Je me dis, allez, je me fais plaisir. Mais généralement, c'est voilà, une vingtaine de minutes. C'est important de savoir d'être concis. Ça me demande moins de préparation aussi que si j'avais à faire un contenu de 60 minutes.
Et parler tout seul dans le micro, est-ce que tu t'es entraîné ? Est-ce que, en fait, tu as senti qu'il y avait des petits déclics et une amélioration et que maintenant, ça te prend beaucoup moins de temps ?
C'est ça, c'est exactement ça, parce qu'au début, certes, on bafouille ou autre, mais comme j'avais l'habitude de parler un peu en public aussi, ça c'est assez important, de donner des cours, d'avoir fait aussi des conférences sur la gamification, je me suis dit, je peux me sentir à l'aise d'essayer de prendre la parole avec ce côté passion, ce ton, pour pouvoir être authentique. Je me suis dit que les auditeurs pouvaient être complètement indulgents sur le fait que je puisse buter sur tel ou tel mot, parce que oui, il faut le savoir, ayant peu de temps pour enregistrer, je me lance sur l'enregistrement, si à moins de 50% j'ai un peu trop bafouillé, je le refais, mais sinon je me lance jusqu'à la fin et je suis capable de faire en maxi 2-3 prises cet épisode de 15-20 minutes. Donc ma période d'enregistrement pure est essentiellement sur une heure et quart, 2 heures si je suis vraiment mauvais.
Ok. Et ça, je suis certain que ça s'améliore en plus d'épisode en épisode. Et justement, pour l'anecdote aujourd'hui, tu as quelques podcasteurs qui veulent diversifier leur format et qui te proposent, qui te demandent conseils et un petit peu à ton tour de les coacher.
Ouais. Bah, c'est ça qui est intéressant, ou du moins de donner des conseils ou autre. Et effectivement, c'est surprenant. J'avoue que moi, quand je me suis posé la question du côté podcast, oui, il y avait le côté deux voix, mais j'avais vu quand même des exemples à une voix. Je pense par exemple à Guerre de Business, où la personne incarne lui-même quasiment tout, et ça dure une heure, et c'est différent, mais c'est tout à fait possible. Mais je ne savais pas qu'on n'était pas si nombreux à faire des podcasts ou effectivement à qu'une voix en termes de narration.
Et dans le cadre de Guerre de Business, Lomig Guillot, y a des moyens importants et en fait il retravaille, on l'a fait intervenir dans la formation de Podcast Mania. Ouais. Il nous a un petit peu expliqué le process, il réécrit tout le script et il lit mot par mot parce que c'est la traduction de Guerre Business, War of Business, Business of War en anglais, ouais. Produit par Wondery. Et du coup, ils ont les textes et il les réécrit mot par mot Il les adapte à la France, il a carte blanche pour ça, et c'est comme ça qu'il se réapproprie. Mais en gros, un épisode, ça lui demande quasiment 4-5 heures de réécriture.
Ah oui.
Voilà. Et après, il enchaîne quasiment en une seule prise, il reprend passage par passage. Et ça, il le fait dans un studio professionnel avec un ingé son qui quasiment monte en direct l'épisode. Voilà.
Ah oui.
Juste pour la précision de la différence de production, de sound design, c'est quand même incomparable.
Bien sûr. Non, ça me rassure. Mais en gros, pour redonner... Le process, pour tous ceux qui ont déjà écouté un épisode d'une toute autre histoire, grosso modo, j'ai un pipe d'idées qui me vient en marchant aussi de mes lectures sur les potentielles idées et analogies ou les personnes. Richelieu, vous ne l'avez pas encore parce que je n'ai pas encore, pas complètement encore décidé sur l'analogie, sur la thématique telle qu'elle sera, mais il est bien prévu. Une fois que je valide l'analogie, la validation de l'analogie, c'est 10-15 minutes. Je fais une première grande recherche avec énormément de sources. J'ai beaucoup de sources documentaires sur le web via des sites comme Hérodote que je trouve particulièrement intéressants, mais des sites de biographie et autres. Donc, je sais où trouver les différentes informations concernant les protagonistes ou les événements, encore une fois. Donc, ça, ayant cette masse, ça me prend à peu près trois quarts d'heure, une heure. Ça me permet d'écrire ensuite une première version du script. Et cette première version du script, je commence un petit peu à la lire, m'en imprégner, la réaffiner. Et après donc faire cette session d'enregistrement donc qui me prend maximum donc une heure avec les différents essais.
D'accord.
Puis la publication, l'épisode, le côté éditorial. Donc de A à Z pour les auditeurs, un épisode d'une toute autre histoire, de vraiment l'idée qui me vient dans le métro jusqu'à la publication et sur les plateformes, c'est 4 heures.
Ok. Et ça un petit peu quand même dispersé tout au long de la semaine. Tu laisses un petit temps. Où tu dis, même si tu travailles pas, même si tu es pas derrière l'écran, en fait, il y a des petites choses qui s'infusent.
C'est ça, exactement. J'y pense un peu tout régulièrement, mais là, je te dis, pour dimanche soir, je suis vraiment. J'ai à peine fait le premier draft, donc il me reste encore 2 à 3 heures de boulot. Donc parfois, ça peut être d'un coup, mais parfois, ça peut être complètement, effectivement, s'infuser. Ça dépend aussi de la conviction, ça dépend aussi si je suis à l'aise avec l'analogie en question. Là, sur celle de dimanche soir, je me sens assez à l'aise, donc voilà, ce serait quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux ou sur lequel je le suis moins. Là, je m'inquiéterais davantage et j'aurais travaillé un peu plus en amont.
Et du coup, question technique, le montage, tu le fais sur Audacity encore ?
Ouais, tout à fait.
Et de manière très très simple ?
Ah ouais, très très simple. J'ai mon. Si vous écoutez, d'ailleurs, désolé si parfois je peux faire des erreurs, mais j'ai montré l'intro, montré le de conclusion sur la musique et la bande son originale et donc ça va entre guillemets très très vite. C'est templaté, mais j'ai pas assez de temps pour pouvoir faire différents effets. Donc voilà, c'est simple, net, efficace pour l'instant.
C'est concis.
Pour l'instant, voilà. Mais encore une fois, c'est ce que je peux m'octroyer entre guillemets par semaine. Je fais juste quelques parce que là, les auditeurs se disent mais à quoi ça peut ressembler un épisode d'une toute autre histoire. Quelques justement analogies aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Quelques
exemples. Il y a 39 épisodes aujourd'hui, 40 donc avec dimanche. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est certaines convictions que je peux partager. Aujourd'hui, vous avez tous, si je vous parle de la Révolution française, l'image comme quoi qu'elle a démarré le 14 juillet 1789. En fait, quand on se plonge un peu plus dans l'histoire, on se rend compte à quel point bien un autre événement que sont les États généraux qui ont démarré en mai 1789 était particulièrement structurant pour la crise. Et qu'en fait, on pourrait presque faire démarrer la Révolution française à ce moment-là. Et en fait, c'est un épisode qui me tenait à cœur pour ce cher Louis XVI. En fait, il est dépeint aujourd'hui comme le roi martyr, mais c'est surtout qu'il n'était pas formé à la communication. Et en gros, je fais l'analogie pour les managers, les leaders qui doivent monter actuellement des séminaires. Voilà, on est en mode crise et pour rassurer les équipes, donner la vision et que ça soit clair, eh bien, Louis XVI n'a pas été du tout en capacité de pouvoir le faire, de bien préparer ses états généraux. Il a un peu désavoué quelques-uns de ses speakers, si j'ose dire, notamment Necker ou autres. Ça a généré une véritable dissension, ça a généré vraiment beaucoup de... frustration et donc la création du tiers état et donc il y avait déjà tous les germes de la Révolution française dans cet événement qui est raté. Et donc voilà le message clé, c'est on décortique en 7 étapes les 7 erreurs qui sont produites entre le 5 mai et le 14 juillet qui a entraîné donc ensuite la prise de la Bastille. Une autre analogie que j'aime beaucoup, c'est aussi c'est notamment les personnages militaires sont très importants. Un qui est très particulièrement important, c'est le général Eisenhower qui était en charge du débarquement. Il faut se rendre compte à quel point le débarquement était complexe d'un point de vue logistique. Eh bien, c'est fou, mais aujourd'hui, dans le développement personnel, vous avez tous entendu parler d'une matrice où vous avez chose urgente ou chose importante. C'est 4 carrés, c'est une sorte de matrice que beaucoup de consultants mettent en avant pour vous aider à prioriser les tâches urgentes, non urgentes. Eh bien, il faut savoir que c'est Eisenhower, et ça, je l'ai découvert alors que
Ça s'appelle la matrice Eisenhower.
Pourquoi il l'a mis en place? Parce qu'il devait pouvoir prioriser. Et il avait tendance à dire qu'au lieu que ces journées durent 24 heures, elles duraient 48 heures grâce à cet outil que lui-même, il avait mis en place. Et qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé par les différents leaders
ou managers. Moi, elle est dans mon bureau.
Voilà. Et ça, le fait de savoir que c'était Eisenhower, je l'ai appris, mais que tardivement. Donc, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, on peut apprendre beaucoup de ces personnages-là. Et aussi, par exemple, des autodidactes, comme ça soit Benjamin Franklin et de la veuve Clicquot. Je sais que tu as une admiration pour ce personnage qui
est complètement autodidacte. Je suis fan et j'ai compris aujourd'hui... Aussi, le petit clin d'œil à Reims, où tu as fait tes études.
Bah oui, c'est ça.
Effectivement, la veuve Clicquot, j'ai toujours... Je connais, bien sûr, cette belle marque de champagne, mais je ne savais pas toute l'histoire derrière. Et quand j'ai vu l'épisode, quand je l'ai entendu, j'ai tout compris. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'elle était... elle rayonnait partout en Europe, en Russie, et elle n'était pas sortie de Reims quasiment, ou peut-être
c'est ça.
De la région. Et c'est incroyable de penser qu'il y a 200 ans, on parle beaucoup de... On se dit qu'on vit une période incroyable, mais en fait, quand on revit ces moments d'histoire avec toi, on prend conscience que, bon... effectivement, Facebook existe aujourd'hui, mais en fait, vendre et exporter du champagne dans le monde entier en Russie il y a 200 ans, c'était aussi possible. Et c'était... Alors, il y avait d'autres outils. Elle s'est appuyée sur d'autres forces, d'autres avantages qui sont encore d'actualité, notamment des équipes, des ressources humaines incroyables. Et c'est là où le parallèle est... et la prise de recul sont importantes et sont nécessaires. Ouais.
Exactement, qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de personnages historiques ou même d'entrepreneurs ont déjà dû disrupter il y a 100, 200 ans, compte tenu par rapport à un challenge, une complexité. Et donc, c'était le cas pour la veuve Clicquot, parce que elle était simple femme de l'entrepreneur Clicquot, et elle s'est retrouvée à la tête de l'entreprise. Elle n'avait aucune expérience en gestion management. Elle aurait pu décider de vendre ou faire en sorte que ça soit quelqu'un d'autre de la famille qui prenne l'entreprise. Et non, elle a relevé le challenge et elle est devenue entrepreneur autodidacte. Et elle a su vraiment... Elle a été coachée, elle a été accompagnée, mais elle a assumé. Et c'est exactement ce que tu dis. Et là, par exemple, je me permets maintenant, le podcast me permet de créer des conférences, de faire des conférences. Et donc, mes chers clients que je connais me contactent, par exemple, pour faire des conférences sur des thématiques. Et donc là, d'être beaucoup plus large sur une thématique. Là, il y en a une qui est assez importante, qui est savoir manager à distance. Aujourd'hui, on est tous confrontés à cette problématique. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut pas puiser dans l'histoire des exemples de personnes qui ont dû manager à distance tel ou tel projet. Donc, il y a évidemment De Gaulle qui a créé tout son projet de la résistance française depuis Londres, en n'étant pas en France. Et il y est parvenu, il a réussi à relégitimer la France. Mais par exemple, Napoléon, qui a été contraint à gérer son empire... vous doutez bien qu'il n'était pas tous les quatre matins en Russie, en Espagne, en Autriche pour pouvoir tout gérer. Comment il a fait? Et quand, c'est ça qui est incroyable, même en début de semaine, je fais des découvertes folles où je me permets cette anecdote où il faut savoir que Napoléon, bah, pour pouvoir transmettre ses ordres, c'est particulièrement important. L'écrit était important. Il n'y avait pas d'Internet. Le télégraphe était assez balbutiement. Donc, on ne pouvait pas envoyer des dépêches. Donc, c'était compliqué. Donc, envoyer un éclaireur, lui faire, lui donner crédit, même utiliser le service de poste, c'était pas assez sécurisé. Eh bien, Napoléon, eh bien, il mandate un directeur de la communication, ce qui est en fait le directeur des postes, et ils inventent tous les deux le système d'estafette. Le système d'estafette, c'est juste génial. C'est déjà, en fait, le relais crypté. C'est-à-dire que c'est des checkpoints qui sont un peu partout en France et dans les différents points stratégiques. La personne, c'est dans un livret fermé à clé. La clé, c'est le directeur, justement, de Chalamand, donc que je cite, le directeur des postes, qui a une des clés. Napoléon a l'autre. Et du coup, ils transmettent les ordres, ils passent par différents checkpoints, et du coup, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus fiable, et c'est la notion de réseau. Et au final, c'est même moins coûteux que d'utiliser le service de poste. Donc c'est incroyable, c'est beaucoup plus rapide. Napoléon qui disrupte déjà, qui invente cette notion de relais sécurisé, comme vous savez maintenant que vos mails passent par différentes antennes relais.
C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissent naturelles et très modernes et très neuves, nouvelles, alors qu'en fait, elles s'appuient sur toute une évolution et toute une histoire.
Exactement. Bon, voilà, j'espère que ça vous, chers auditeurs, ça vous a intrigué pour écouter quelques épisodes. Et n'hésitez pas à me suggérer. C'est surtout ça. La veuve Clicquot, je remercie, c'est un auditeur qui me l'a suggéré. Donc, c'est ça qui est vraiment superbe. Donc, que ça soit un projet véritablement collaboratif par rapport aux épisodes.
Justement, tu as eu. Tu as quelle relation avec cette communauté qui t'écoute? Est-ce que tu arrives à avoir des messages, des retours et à identifier un petit peu si effectivement la première idée d'intéresser des cadres est vérifiée?
Alors, pour l'instant, la communauté, j'avoue qu'elle est essentiellement sur LinkedIn pour ceux qui me suivent, où je publie quand il y a un nouveau épisode. Je travaille sur la conception effectivement d'une newsletter, mais j'ai pas réussi à véritablement enclencher. Déjà, je voulais voir si ça allait prendre, puisqu'encore une fois, le podcast a été monté en octobre. Donc voilà, c'est le prochain achievement que je dois faire, la prochaine réalisation, de bien construire cette communauté dont tu fais partie, dont plein d'autres personnes font partie, et que j'ai sollicité notamment à travers un Google Form pour voir aussi comment faire évoluer le concept, le podcast, imaginer différents produits, parce que s'il faut qu'il y ait une newsletter, il faut que ça apporte aussi son intérêt. Donc voilà, peut-être que le podcast d'ailleurs va évoluer avec des interviews ou autre. C'est toutes ces questions que j'ai posées. Donc sur cette deuxième saison, je vais essayer d'imaginer, c'est en cours. Mais j'ai aussi un nouveau format aussi potentiellement en tête qui pourrait intéresser pas que la communauté, mais au sens plus large, avec un livre, un projet d'un livre sur lequel on pourrait continuer justement les analogies, mais utiliser différents supports. J'y suis sûr que ça pourrait intéresser beaucoup d'auditeurs de faire encore une fois, cette fois, d'avoir un support écrit, mais avec des analogies au niveau d'outils. Justement, la checklist du débarquement ou le business model Canva pour ceux qui connaissent. L'outil qui permet de modéliser une entreprise de Walt Disney ou des frères Warner ou de la veuve Clicquot par exemple ou quel serait aujourd'hui le profil Instagram de Napoléon ou voilà, enfin, j'ai énormément d'idées pour faire ces analogies encore une fois de choses qui sont connues de nos jours en 2020 et pour leur donner une autre vision, un autre filtre et que ça soit véritablement inspirant. Donc voilà ce qui va un petit peu me servir en fil directeur avec cet objectif. Peut-être que je vais me faire coacher aussi pour justement récupérer, savoir construire une bonne newsletter et récupérer différents mails. J'en parle justement régulièrement avec Romain qui me suit toujours en tant que coach personnel branding.
Super, effectivement, Ils ont un bon petit groupe là qui justement travaille sur les newsletters.
C'est ça, t'as remarqué aussi?
C'est très sympa, ouais. Avec Jean-Charles Coeur-d'Alie qui est aussi passé sur Aventure humaine.
Exactement.
Le monde est très petit.
Oh oui, très petit.
Si on fait un petit focus sur le podcast français aujourd'hui, est-ce que toi
Tout à
tu as
fait.
des tu en écoutes régulièrement? Est-ce que tu as des petites découvertes à nous partager?
Alors, sur le podcast français, bah déjà, encore une fois, il y a un peu plus d'un an, je découvrais. Hein, donc, j'ai écouté certains, donc les classiques de France Inter et autres liés à l'histoire d'abord pour voir comment me positionner. Après, des découvertes avec, bah, effectivement, Génération Do It Yourself, VLAN, enfin, les plus connus. Mais dans les derniers que j'ai découverts, bah, je trouve assez incroyable le projet de Fanny Cohen-Moreau, donc Passion Médiéviste, que j'ai rencontré lors d'une conférence sur le podcast, où, qui est l'incarnation comme quoi qu'on peut faire un podcast sur juste une période de l'histoire, le Moyen-Âge. Sur papier, c'est un pari, encore une fois, pas sexy, exactement comme les visites guidées, encore une fois, il y a 10 ans. Et bah, pourtant, elle a créé un produit, une expérience assez incroyable à chaque fois. Donc Passion Médiéviste, ça rencontre un énorme succès et ça démontre que, encore une fois, pour ceux qui pensent avoir une expertise de niche ou un sujet de niche, eh bien non, bah on peut, quand on creuse, on peut trouver toujours du pétrole. C'est complètement vrai et c'est un très très beau podcast et qui fait figure de référence dans le côté podcast historique, que ça soit sur le fond, la forme et l'état d'esprit. Donc,
OK.
y a son podcast. Et puis, lesquels autres là, il y en a. Je réfléchis en même temps. Non, ça va me revenir si j'en ai d'autres. Mais non, ils sont beaucoup plus traditionnels, mais je dois faire
OK.
l'effort. Il y a la combinaison de Frédéric Azoulay que du coup j'ai découvert puisque j'ai échangé avec lui puisque pour son futur projet. Donc là, je vais me mettre à écouter aussi la combinaison ce week-end. Donc voilà, j'ai du retard à rattraper. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'encore une fois, voilà, le domaine du podcast est impressionnant. La communauté Podcast Maker permet énormément d'opportunités et de découvertes. Voilà, donc c'est particulièrement motivant de voir que c'est un écosystème qui bouge. Et je pense que tu en es l'incarnation forcément et le relais et l'ambassadeur.
Super, merci. Et justement, on a compris que aussi, à côté du podcast, tu lisais beaucoup.
Oui.
Est-ce que tu as des pépites en... J'aime beaucoup les biographies.
Ouais.
Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment et qui comprennent que c'est un bon moyen d'éviter de faire des erreurs et de s'inspirer.
Ouais.
Est-ce que tu en as quelques-unes à nous partager?
Alors, j'avoue que bah, les biographies, en fait, ce qui est pas évident, il faut arriver à... Je ne veux pas dire que c'est difficile d'accès, mais moi je conseillerais pour un peu les néophytes. Ça fait office de biographie, c'est un petit peu différent, mais c'est notamment le format bande dessinée. C'est-à-dire que notamment il y a une série qui s'appelle Ils ont fait l'histoire. Ils ont fait l'histoire, donc une bande dessinée, je crois, aux éditions Fayard, et qui aujourd'hui est vraiment. Et voilà, ils ont lancé la collection il y a un peu plus de 2 ans, avec certes des figures type Saint-Louis, Philippe le Bel et autres, mais Napoléon en 3 volumes, De Gaulle en 3 volumes, mais je trouve que c'est particulièrement effectivement bien fait, c'est précis. Et ça donne vraiment un éclairage et ça donne envie potentiellement d'aller plus loin. C'est une porte d'entrée pour aller plus loin et aller sur vraiment la véritable biographie. Et découvrir un personnage en 48 pages illustrées, et pas de façon académique, hein, pas comme dans le livre d'histoire, comme je disais,
Oui.
avec cette bande dessinée, eh bien, c'est déjà, je dirais, un bon prérequis. Donc, moi, c'est un peu mon coup de cœur. Actuellement, j'avoue que même pour préparer la conférence où je
T'as
creusais le
acheté?
sujet de De Gaulle,
Ouais, t'as acheté les trois BD.
Eh bien, en relisant les BD, bah, il y avait des anecdotes que j'ai retrouvées et ça m'a permis de plus facilement d'incarner et de retransmettre parce que je visualisais plus facilement aussi. Je suis quelqu'un de très visuel aussi, donc le personnage. Donc, il y a ça. Et même dans le même état d'esprit, il y a pour l'instant eu que 2 saisons, mais la série Genius avec Einstein et Picasso, donc de National Geographic, c'est passionnant. Vous allez découvrir ces deux personnes d'une manière complètement différente. C'est pas juste un biopic, ça prend le temps sur 7-8 épisodes de découvrir la facette de ces deux génies. Et c'est vraiment particulièrement inspirant. Sur les biographies pures, après, c'est tellement d'interprétations, c'est tellement différent. J'attends celle de une nouvelle de Churchill qui va arriver dans quelques semaines parce qu'il est inspirant. Il n'y a eu que celle de Kersaudy. Mais je crois qu'il y a une nouvelle qui sort et qui va être vraiment intéressante. Donc voilà. C'est vraiment, je conseillerais aux auditeurs de démarrer par les BD, par ces séries, par les films, encore une fois aussi, qui donnent des points de vue complètement différents avant de se plonger véritablement dans une biographie qui de 800-900 pages. Il faut le faire une fois qu'on sent qu'on accroche.
On est vraiment attiré et accroché.
Ouais. Voilà, exactement.
Ok, super tips. Si on reste sur justement le podcast Made in France,
ouais.
Est-ce que tu as un avis ou une vision sur l'évolution des prochaines années et est-ce que les problèmes que l'on rencontre en tant qu'indépendant vont avoir quelques solutions.
Alors j'avoue que le point qui est important au niveau du podcast, c'est clair que c'est un produit fortement en vogue et plus que maintenant une tendance, c'est une tendance de fond. Le sujet, à mon avis, sur beaucoup qui hésitent aussi à se lancer, pour certains, en tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas parce que c'était une manière d'assouvir ma passion, c'est la notion aussi de la monétisation, de savoir comment ça va se structurer. Je pense qu'il y aurait encore plus de podcasteurs s'il y avait un modèle économique et un engouement encore plus important de la part des sponsors, parce qu'aujourd'hui je pense que quelqu'un qui veut se lancer sur un podcast passion économie ou pas et fait vraiment la réflexion entre la chaîne YouTube et podcast, le podcast permet d'avoir un MVP, mais il y en a beaucoup qui à mon avis doivent lancer quelques épisodes et après se lancer sur la partie YouTube parce que c'est sans doute plus monétisable. Enfin, je sais pas quel est ton avis, mais je pense qu'il y a cet enjeu clé de monétisation, d'encore plus de sponsorship, de nouveaux modèles, de trouver des modèles parce qu'on peut aussi disrupter. Je trouve que c'est un facteur clé de succès pour pérenniser encore plus l'écosystème français. Je pense qu'il y a des choses aussi, des bonnes pratiques à entrevoir de ce que font les anglo-saxons. Je sais pas quel est toi ton point de vue, mais t'es beaucoup plus expert que moi.
Moi, mon point de vue, c'est YouTube, c'est parfait, mais en fait, ce qui me dérange et en tant que créateur de contenu, c'est ça, c'est que YouTube n'est pas mon propre média. Et du coup, en monétisant sur YouTube, j'aurai un décalage obligatoire, oui, qui sera créé par cette petite publicité qui sera intrusive et qui ne sera complètement à côté de la plaque. Je dis souvent cet exemple, si je fais une vidéo sur la permaculture, le jardin ou le bricolage, je vais avoir une vidéo sur Minecraft, une pub sur Minecraft qui va arriver en plein milieu. C'est une horreur. C'est une horreur. Je préfère garder, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Podcast Mania, vraiment ce pouvoir de garder vraiment la main sur l'édito, sur ce contenu qu'on a créé, qu'on passe quand même pas mal de temps et on s'investit beaucoup, et que justement l'aspect monétisation soit quand même enrichissante, oui, des deux points de vue, que ce soit vraiment gagnant-gagnant, et je suis sûr que c'est possible. On va le démontrer.
Bah oui, c'est pour ça que je me fie encore plus à toi, mais quand je vois le nombre de festivals qui arrivent, le nombre d'initiatives, et via encore une fois Podcast Maker, tout ce qui se fait, c'est et là on sent que cette rentrée est particulièrement chargée et riche aussi en opportunité, en événement. Vraiment curieux de voir comment ça va se passer. Mais voilà, je ne me sens pas suffisamment expert et en toute humilité pour vraiment avoir une vision sur le podcast, de la manière dont ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que le besoin est là, il est ancré. Et que la crise actuelle, voilà, encore une fois, pour tous les auditeurs, il faut bien se souvenir que le terme crise en japonais, ça veut aussi dire opportunité. Hein. C'est oui. Ça qui est intéressant. Les opportunités que nous vivons, il faut teinter de manière positive, sont présentes et vont considérablement faire évoluer tous les écosystèmes, dont celui du podcast.
Je ne peux que rebondir et valider Podcast Mania. On l'a créé pendant le confinement. Voilà. Donc voilà, c'est un parfait exemple.
Exactement.
Deux dernières questions,
oui.
et on va pouvoir clôturer cet épisode coulisses que l'on adore.
C'est ça.
Ce sont deux petites questions que je pose très très souvent sur Aventure Humaine.
Bien sûr.
Si tu avais un bouton No Limits devant toi, que ferais-tu et quelle action justement se concrétiserait?
Lequel, No Limits, vous avez, j'ai beaucoup parlé de contenu dans le domaine artistique, dans le domaine loisirs, culture, film, série, voilà, c'est pouvoir voir, expérimenter toujours de manière, enfin, c'est avoir un temps infini pour découvrir tout ça. Alors, c'est pas en mode, il y a le côté binge-watching, certes, mais le côté addictif, mais moi, c'est vraiment pouvoir avoir un temps infini pour découvrir et toujours explorer tous ces contenus, que ça soit de manière présentielle ou distancielle, hein, les musées, mais c'est ça, No Limits, exploration, loisirs culturels, sans fin, clairement.
Du temps, on en a besoin, et pour des gens passionnés comme nous, c'est sûr que c'est une ressource qui file.
Ouais, voilà. Et un dernier coup de cœur, un coup de cœur, un coup de cœur du week-end dernier. Je voulais aller le voir en salle et j'ai pas été le voir. J'ai beaucoup aimé le film Jojo Rabbit. C'est un film hyper osé et innovant sur les jeunesses hitlériennes, mais c'est La vie est belle, mais un cran au-dessus. Donc à travers la vision d'un gamin de 10 ans qui s'imagine Hitler en ami imaginaire, c'est tout du projet casse-gueule. C'est juste assez incroyable humainement, émotionnellement. Il y a de la musique moderne, j'ai vécu des réelles émotions jusqu'à la dernière seconde. Voilà, je le partage parce que je note tous les films que je vois, et quand c'est en lien avec l'histoire, l'émotion, l'expérience, l'enfance, la famille. Voilà, s'il y a un coup de cœur, regardez ce film. Il y en a certains, voilà, pour qui ça peut, ils sont surpris, mais si vous aimez les personnes qui osent, clairement, regarder ce film, c'est vraiment ma dernière belle expérience émotionnelle.
Je ne connaissais pas, je vais aller voir.
Faut que tu le vois, tu vas adorer. Tu vas adorer.
Je te rejoins aussi sur effectivement le podcast, cet aspect transmission, laisser une trace, héritage.
Oui. Oui.
C'est vraiment aussi pour ça qu'on a au début lancé Aventure Humaine. Et tu nous as partagé que tu avais quatre magnifique enfant. Est-ce que tu peux laisser un petit mot et leur adresser un petit mot dans ce podcast?
Bien sûr. Alors, chers Roman, Maxime, Jeanne et Alice, vous savez que votre papa est quelqu'un qui file à 100 à l'heure, beaucoup de projets, passionné, art, histoire, culture, comme vous le savez. Mais le but, c'est vraiment vous faire partager toute cette richesse humaine qui peut y avoir dans ce monde. Et voilà. Et c'est vraiment transmettre cette passion sur laquelle je suis sûr que vous allez comprendre l'intérêt. Ça va vous permettre de vous forger et du coup de vous permettre de trouver votre propre place dans ce monde d'incertitude sur lequel vous allez toujours devoir vous adapter, mais vous allez pouvoir avoir des références, des personnes à qui vous allez pouvoir vous rapprocher et vivre, construire votre propre histoire à travers ces différentes histoires. Voilà, je vous embrasse.
Super, merci beaucoup. C'est vraiment un média tellement riche. Moi, j'adore la puissance de la voix.
Merci Gaël.
Où peut-on donc t'écouter et surtout échanger avec toi pour aller
Bien
plus
sûr.
Loin, organiser peut-être des, des conférences travaillées avec Urban Gaming.
Bien sûr. Alors, si vous êtes intéressé par un jeu, dans une convention, séminaire ou un team building, n'hésitez pas à m'écrire à guillaume@urbangaming.com ou aller sur Urban Gaming, donc sur le site, et demander et utiliser le formulaire de contact. Si vous souhaitez donc écouter les épisodes d'une toute autre histoire, vous pouvez aller donc sur toutes les plateformes de téléchargement, que ce soit Spotify, Apple, Deezer et Ocha, sur lequel actuellement le podcast est hébergé, en tapant une toute autre histoire. C'est relativement bien référencé. Et pour me contacter, le mieux, c'est par mon profil LinkedIn, donc demandez-moi en contact, et puis après on échangera plus facilement par mail pour besoin d'une conférence, une suggestion d'un épisode, le temps que je puisse construire bien cette newsletter, qui sera forcément avec l'email une toute autre histoire. Donnez-moi un petit peu de temps. Donc le plus simple, c'est passer par le profil LinkedIn. Je serai ravi d'échanger avec vous, cher auditeur.
Moi, je te la fais en direct. J'ai très très envie de t'entendre et de découvrir l'histoire de Notre-Dame de Paris.
Ah, d'accord. Encore plus par rapport à l'événement ou d'une manière globale ou
Une manière globale, effectivement, l'événement est, on va dire, un déclencheur.
Ah non, mais en fait, ce qui est superbe avec Notre-Dame de Paris, c'est que tu te doutes bien que non seulement c'est une histoire, mais comme c'est un lieu, j'ai, via curiosité, je faisais visiter. C'est-à-dire que, imagine-toi que j'ai fait des visites où j'étais sur le parvis. Je ne rentrais pas dans le lieu puisque je n'avais pas ma carte de guide, mais où j'ai donné énormément d'anecdotes et de curiosités. Donc, je ne vais pas tout spoiler, mais il y a énormément de choses à raconter. Des personnes qui ont été protecteurs de... Il faut bien se rendre compte que... allez, si je dois donner une histoire, parce que là, ce n'est pas répété.
Je t'ai lancé,
vas-y. Ouais, voilà. il faut savoir que, si, encore une fois, il faut que j'arrive à retrouver tout ce qui est l'organisme des monuments nationaux qui permet la conservation du patrimoine a été lancé pour pouvoir préserver Notre-Dame de la démolition. Et sans était prévu qu'effectivement, après la Révolution, le monument qui était en délabré soit un peu détruit. Et le roman de Victor Hugo a fait tout changer. Et Mérimée, dans mes souvenirs, a pu bénéficier justement du succès de Victor Hugo pour lancer, créer toute la réflexion autour du patrimoine en France. Et Viollet-le-Duc, qui est un des plus grands architectes, a eu du coup toute autorité pour refaçonner et reconstruire véritablement Notre-Dame. Exactement comme on a créé l'UNESCO, il faut savoir, pour protéger le temple d'Abou Simbel, ça a été l'élément déclencheur. Et donc ce lieu Notre-Dame, c'est au-delà de la portée religieuse, symbolique, c'est une refondation à chaque fois. Donc c'est assez incroyable.
Donc en fait, l'événement... le dernier événement, l'incendie, fait aussi partie de son histoire et permettra un rebond, une restructuration et une nouvelle vie.
C'est ça, ça peut être effectivement un nouveau point zéro, un nouveau kilomètre zéro. Il faut savoir que toutes les routes de France partent de Notre-Dame de Paris, il y a un symbole au sol.
Ah ouais, non, mais tu m'as lancé. Mais attends, en 5 minutes, je t'ai lancé, mais j'ai appris plein de choses là.
et je peux même te dire que. Non, Quand on a l'impression que quand tu regardes Notre-Dame, en fait, elle est parfaite, que tout est tout est harmonieux,
ouais.
Exactement. Et en fait, il y a un énorme défaut visuel qui est sur la façade de Notre-Dame, et qu'une fois que tu le sais, tu ne peux voir que ça, et tu le sauras lors du prochain épisode.
Génial. Je suis très très content de t'avoir lancé là-dessus. Merci beaucoup Guillaume pour.
Je t'en prie.
Encore une fois, nous avoir embarqué dans ton histoire. Et c'est hyper important pour encore plus, comprendre qui incarne la voix que l'on écoute tous les dimanches ou tous les autres à différents moments. Merci beaucoup à Raphaël Grieco d'animer d'une manière vraiment top, et on va dire, c'est presque un job à temps plein, d'animer 130 podcasteurs indépendants dans un groupe Slack et puis d'organiser tout ça. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup et à très bientôt sur Offcast ou ailleurs sur nos différents médias.
À bientôt. Au revoir.